Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons retrouver, si je puis dire, cette semaine, Christian Pénicaud. Alors, Christian Pénicaud, il est limousin d'origine, on lui doit les histoires extraordinaires de mon grand-père en Limousin, en Périgord et en Charente. On lui doit également des almanachs périgordais, Limousin, Quercinois, Charentais et en Périgord, le Bonheur Gourmand que l'on a vu la semaine dernière, mais aussi les maisons périgordines. C'est ce livre, publié en 2010 par Communication Presse Édition dans la collection Reflets de Terroir, que l'on va découvrir partiellement tout au long de ces 128 pages. Cet ouvrage très bien illustré se présente sous une couverture fortement cartonnée avec une photo de Sarlat à couverture. Voilà. Alors voici ce que nous dit le préambule, parce qu'il y a quand même une petite annonce avant. Alors parler des maisons périgordines évoque tout naturellement l'idée d'architecture, mais que comprend l'architecture ? Il semble évident de penser tout d'abord aux maisons d'habitation et tout aussi évident de parler des demeures les plus sobres comme les plus riches, des châteaux par exemple, des manoirs petits ou grands, mais qui dit architecture dit aussi églises, hôpitaux, écoles, bâtiments agricoles et pourquoi pas usines. C'est pourquoi il me semble intéressant de n'évoquer que ce qui fait véritablement le patrimoine périgordais. Jean-Paul Simon a écrit un ouvrage intitulé « L'architecture paysanne en Périgord », mais dans lequel il se consacre à la restauration des vieilles maisons paysannes. C'est un véritable livre d'art où il décrit en même temps les règles qui président selon lui à la conception qui doivent être respectées pour réussir une restauration en Périgord. Des règles, oui, il en existe, et c'est de celles-ci que tente de s'inspirer ce travail sur des maisons périgordines. Et des premières est donc de discerner ce qui est véritablement périgordais et ce qui ne l'est pas. Et cela nous oblige à remonter très loin dans le temps. Alors bien sûr, très loin dans le temps, mais ma foi, c'est la préhistoire. Alors voilà ce qu'on nous dit bien sûr de la préhistoire et de l'habitat de l'Homo sapiens. Pendant toute la période glaciaire, rennes, mammouths et même rhinocéros laineux ont trouvé refuge dans le bassin aquitain et plus particulièrement dans la vallée de la Vézère. Cette occupation du territoire favorisa ainsi l'installation d'un homo sapiens, homme de Cro-Magnon, l'autre homo sapiens ayant été découvert en Allemagne et ayant vécu entre 250 000 et 28 000 ans avant notre ère. Les grottes et les abris sous roches foisonnées, les rivières avaient permis à l'herbe de se développer. Nos ancêtres trouvèrent donc tout ce qu'il leur fallait pour s'approvisionner en plantes sauvages, en gibier et en poissons nécessaires à leur alimentation. Les alluvions de la Vézère déposaient nombre de silex qui permirent à l'homme de confectionner les ustensiles indispensables à la fabrication de leurs outils et de leurs armes. Les nombreux vestiges de leurs habitats et de leurs coutumes ont fait des Égyptiens la capitale mondial de la préhistoire. Alors, bon, on va laisser un peu les exils, je crois que tout le monde connaît plus ou moins. Alors, après, bien sûr, l'homme préhistorique, mais il y a l'époque qu'on pourrait dire un peu, en quelque sorte, un peu actuelle, et c'est les Gaulois. On va voir un peu ce qu'on nous dit des Gaulois. Alors, la maison gauloise a été construite sur un plan rectangulaire, en rondin, jusqu'au départ du toit, mais la charpente était solide. Poutres et chevrons étaient agencés avec des cordes. Le toit, lui, était constitué de branches feuillues très régulières, de gerbes de roseaux ou de paille épaisse. On retrouve des toits de paille comme ça en montagne. Tout autour, des murs défensifs étaient fabriqués en pierre, en terre et en bois. Ils servaient à se reposer, à se protéger des intempéries, mais il reste infiniment probable que le reste de la journée se passait à l'extérieur. Par exemple, quand le temps le permettait, la maison n'avait pas encore, chez les Gaulois, à l'inverse des Romains, un caractère sacré. Par ailleurs, au début, au moins, le clan n'existait guère dans et autour de la maison. La cellule restait familiale, de forme conique. Le plus souvent recouverte de chaume, la maison se composait d'une pièce unique et d'un mobilier très limité. Là encore, comme chez les hommes préhistoriques, des vestiges de banquettes, de couchage subsistent, témoignant de la pièce unique que constituait l'habitat gaulois. Ça ne devait pas être très confortable, mais enfin bon, l'essentiel c'est de s'abriter. Alors, bien sûr, après, ben, il va y avoir les villes. Les villes et les premières, comment je pourrais dire, villes que l'on connaît le mieux, ce sont les Bastides. Alors, voilà ce qu'on nous dit des Bastides. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, furent ainsi créées en Périgord 18 Bastides, pour des raisons ressemblant fort à celles qui avaient conduit les paysans de Castillonès à construire la leur. Bien d'autres avaient été prévues, mais probablement pour des questions de belligérance et changement d'hôte, elles ne virent pas le jour. Au sud-ouest de la France, étant occupé pendant longtemps par les Anglais, il y avait beaucoup plus de Bastides anglaises, c'est-à-dire que leur édification avait été commandée par le roi d'Angleterre. Ils en avaient 11. Alors, on va les passer en revue. Il y a Beaumont-du-Périgord, Beauregard et Bassac, Font-Roc, La Laine, Molière, Monestier, Montpazier, Puy-Guilhem, Roquepine, Saint-Barthélemy de Bellegarde et Villefranche de Longchamp. Trois autres étaient des Bastides comtales, circonscrites par un comte. Il y avait Bavant, Saint-Aulay et Vert. Enfin, les Bastides françaises, c'est-à-dire commandées par le roi de France, n'étaient que quatre, Dôme, Aimé, Saint-Louis-en-Lille, et ne pas confondre avec le quartier de Paris, et Villefranche du Périgord. Le mot Bastide est issu à la fois du latin et de l'occitan, Bastide, lui-même venant du verbe signifiant bâtir. Dans les actes officiels, on trouve les termes Bastide, c'est Ville-Nove, Ville-Bastide-Neuve et Bastide de Peuplement. Comme on le sait, ces villes étaient nouvelles car elles se différenciaient complètement des villes construites généralement autour d'un château ou d'une abbaye. Ce phénomène ne dura pas très longtemps, environ une cinquantaine d'années, puisque la première Villefranche du Périgord fut construite en 1261 et la dernière, Saint-Barthélemy, en 1316. Aujourd'hui, si les villes demeurent, les Bastides ont presque complètement disparu, on en dénombre plus que quatre. Alors, il y a Beaumont du Périgord, Molière, Montpazier et Villefranche du Périgord. Montpazier étant bien sûr la plus connue. Alors, bien sûr, il y a Beaumont du Périgord, il y a Molière, on ne va pas les passer toutes en revue, on va pas les passer donc comme je dis tout en revue. On va poursuivre un peu le cheminement, et bien sûr, il y a les châteaux. Alors, c'est à Périgord que l'on trouve le plus grand nombre de châteaux, de manoirs, de gentilhommières. L'histoire de France raconte les innombrables constructions de châteaux que les seigneurs entreprirent au cours des siècles afin de se préserver des attaques de leurs voisins français ou anglais. Le sud-ouest n'était pas encore français. Et même les petits seigneurs, ceux qui n'étaient pas réputés pour leur grande richesse, se faisaient un devoir d'affirmer ainsi leur suprématie sur une région. À tel point que la hauteur des donjons, l'épaisseur des courtines était parfois exagérée afin de montrer la puissance des habitants des lieux et d'intimider d'éventuels adversaires. La plupart des châteaux laissent apparaître les différentes innovations apportées par les propriétaires successifs, ceux-ci préférant ajouter les nouveaux aménagements aux anciens plutôt que de remplacer ces derniers. Et le résultat est assez surprenant, la diversité des styles de chaque période de construction ne gênant en rien l'harmonie de l'ensemble. Alors, bien sûr, des châteaux, on ne va pas tous se passer en revue, il y a Comarque, il y a le château de Loos, il y a aussi le nord du Périgord, et puis on va aller faire un petit tour à Thiviers, tant qu'on n'est pas allé par là. Et nous voici donc arrivés à Thiviers, la capitale du foie gras, mais cette petite ville possède bien d'autres atouts, telle cette ruelle au fond de laquelle se dresse un château. Elle a encore ces petites rues où l'on découvre de bien jolies maisons à colombage, rue du Général Lamy, ou du Pont Fermier. De-ci, de-là, l'on aperçoit des jardinets garnis d'arbustes, de potiches et de bancs. Alors, il y a de très belles photos, d'ailleurs, de petites rues de Thiviers. Il y a également son église. Il y a plusieurs châteaux, d'ailleurs, sur la ville. Et puis, il y a des châteaux. Il y a le château de l'Action, qui n'est pas très loin. Situé sur la commune de Cornéac-sur-l'Isle, dans le Périgord vert, ce château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour ses façades et ses toitures depuis 1946. Une demande d'extension de cette inscription est en cours. Alors, bon, ce livre date de 2010, je ne sais pas si ça a été accepté ou pas. Alors, donc, ce château de l'Action avait appartenu au XVe siècle aux seigneurs de Cognac, les Chaptes de Rassignac, qui, vers 1560, Antoine Chapte entre en possession de tous les biens de la famille Rastignac lors d'un second mariage en 1574 avec Marguerite de Calvimont. Celle-ci devenait propriétaire des terres de l'Action. Voilà, alors on va laisser un peu ce château. On va continuer, notre visite. Et on va aller à Ribérac. Ribérac, on va aller sur les terres de l'Angoumois. Alors Ribérac possède de belles maisons, bien typées, avec des murets délimitant leur parterre, pierre de taille et œil de bœuf. Malheureusement, certaines de ces maisons ont une fois de plus été crépies. Grosse erreur des années 50, c'est vrai. La collégiale de Ribérac évoque étrangement la basilique Saint-Front de Périgueux. Alors on va continuer un petit peu. Il y a Grignol. Alors, ce voyage de découverte m'a amené dans la commune, pas moi, mais Christian Pénicaud, m'a amené dans la commune de Grignol. Mais un peu avant d'y parvenir, je croise la jolie église de Bruc, qui fait partie de la commune de Grignol. Cette église du XVe siècle est inscrite au monument historique. À une époque lointaine, celle-ci comptait 5000 habitants. Temps révolu, mais l'église du XVe siècle est toujours là et elle est même inscrite au monument historique. Voilà, alors, donc cette commune de Grignol, mais cette commune conserve précieusement les ruines d'un château bâti sur une crête rocheuse qui domine toute la vallée, une véritable forteresse qui défendait la route entre Périgueux et Bordeaux, édifiée entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Son donjon carré est monumental et encore aujourd'hui un canon bien planté entre les meurtrières semble en interdire l'entrée. Et une petite précision, il fut le berceau des comtes de Talleyrand Périgord. Alors, il y a quelques photos de ce donjon, et avec le canon qui pointe entre les créneaux. Alors, puis il y a d'autres villages, il y a le village de Jor, une fort belle église romane du IIe siècle, et un splendide château. Et puis évidemment, on va dans le Périgord central, il y a vert, dans le Périgord blanc, une curiosité, l'église romane, sur son fronton, l'inscription clocher Jasper. Alors, on a déjà parlé dans une précédente émission, de Jasmin, qui était venu raconter des histoires en Occitan pour l'édification du clocher qui manquait à cette église. Voilà. Et donc, il a recueilli, je crois qu'il est venu deux fois, il a recueilli quand même suffisamment d'argent et le clocher a pu être édifié. Alors, bien sûr, il y a le village de Saint-Laurent-des-Bâtons, qui serait presque un résumé des bâtisses périgourdines. Château, maison, grange, terrasse, église, préau, vieux puits et pigeonnier à fenestreau, parade avec un mélange de délicatesse et de grandeur. Voilà, alors, bon, il y a les photos, ça c'est pas très radiophonique, mais il y a de très belles photos de maisons, etc. Voilà, alors bien sûr, pour terminer, bien sûr, on va aller faire un petit tour à Sarlat. Alors, il est évidemment impossible de parler des maisons périgourdines sans parler de Sarlat, dont le patrimoine exceptionnel vaut à cette cité médiévale d'être la ville d'Europe qui possède le plus grand nombre de bâtiments inscrits ou classés au kilomètre carré. Ses rues, ses passages, ses ruelles sont la mémoire de 1000 années d'architecture authentique dominée par la pierre blonde et chaleureuse qui parade entre les pavés et les toitures de Loz. Autrefois, des remparts et de profonds fossés entouraient la ville. Ils ont été comblé au XVIIIe siècle pour créer des boulevards. Voilà, c'est vrai qu'on peut faire le tour de la ville, mais il y a encore les fortifications par endroits avec les portes. Alors je vais terminer. Ainsi, le passant trouve toujours de quoi s'émerveiller lorsqu'il longe les rues Fénelon, d'Albus, Albéric Cahuet ou les passages Henri de Segogne et Ernest Baudel. Et s'il monte jusqu'à la place de la Liberté, il pourra s'attarder à admirer des splendides toitures de Sarlat. En quittant la rue de la Liberté, qui était jadis la rue la plus animée, les pas l'amèneront inévitablement au présidial, siège de justice royale créé par Henri II, monument qu'il faut restaurer au XVIIe siècle et agrémenté d'un superbe lanternon à béquilles. Voilà. Alors, moi je vais terminer aussi, mais il n'en aura pas terminé pour autant, par-ci par-là. Il n'a que l'embarras du choix entre la cour des Chanoines et nombreux hôtels, que ce soit l'hôtel de Vassal, l'hôtel de Malville, l'hôtel de Montaigne ou le Génisse. Et la fameuse place des oies où se tient chaque samedi le marché aux oies, où se tenait... Alors effectivement, on voit, il y avait la photo d'une plaque qui a marqué place de marché aux oies. mais cette marche aux oies, bien, il y a trois oies qui sont la sculpture de François-Xavier et Claude Lalanne en 1991. Et bien sûr, les enfants montent à cheval sur ces oies pour se faire photographier. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé avec ces maisons périgourdines et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Donc, et je précise que c'est un livre qui est de Christian Pénicaud. Voilà, bien, au revoir et à bientôt.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.